Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux. Nulle vanité, je recherche le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour, quand pourtant mon sang est demeuré froid. Mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant. Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde.
Salut les amis. Et salut Antoine qui m'accompagne à la technique aujourd'hui. Bon, c'est bien d'être capable d'aller dans tous les sens et dans tous les studios de la radio. Bon, les amis, c'est sans doute mon dernier édito. Je vous écris de la maison, c'était hier donc, à l'heure où le soleil se couchait. La lumière était dorée et soulignait la face, et les dernières feuilles de chêne blanc étaient encore tout habillées de couleurs d'automne. C'est bien la première fois que je vois des feuilles dorées aux arbres à la fin de l'année. Il faisait doux et magnifique. Hier, était-ce un accident? Il y avait 2 degrés le matin et 20 à midi. Oh, étrange ce temps. Qu'en penser? Je ne sais pas. J'ai même le sentiment qu'on n'a pas le temps de penser. Dans quelques jours, c'est Noël, ou plutôt les vacances, pour presque tous. Je vous souhaite de voir les gens que vous aimez. Vos enfants, vos amis, vos voisins. Et même les inconnus. Allez, on y va. Mozeka.
He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ay. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego.
El Desierto nous chante Lassa avec nous sur Escapade et dans Dididi.
Merci Antoine. Ah, ça me fait des souvenirs ça. Bon, drôle de temps et drôle de politique. Comme j'ai toujours aimé me plonger avec le canard pour commencer l'émission, on ne va pas se priver pour la dernière fois. Mais qui peut dire encore que c'est possible? Bon, alors, je vous lis un article qui m'a un peu énervée, comme souvent. Touche pas à mon 49.3. Maintenant que les dirigeants du Rassemblement national veulent le faire passer pour un parti comme les autres, ils n'hésitent plus à la jouer soucieux du respect des institutions et à saisir le Conseil constitutionnel. C'est nouveau. Cette semaine, les juges du Palais Royal doivent ainsi trancher un point soulevé par les députés RN. Dans un recours qui a été déposé le 16 novembre, ces nouveaux amis du droit, oui, je le dis bien, ces nouveaux amis du droit s'interrogent sur la validité du 49-3 déclenché pour faire adopter la loi de programmation des finances publiques pour les quatre prochaines années. Mais oui, on s'en aperçoit à peine. Hein. Comme le canard l'avait raconté, le gouvernement avait convoqué sa session extraordinaire la dernière semaine de septembre pour faire voter en première lecture cette loi de programmation. Il pensait ainsi économiser l'unique 49-3 auquel il a droit, hors budget, hein, pendant la session ordinaire et en conserver le possible usage pour un texte délicat comme par exemple celui de la loi sur l'immigration. Mais la seconde lecture de la loi de programmation, ponctuée par un second 49-3, je crois qu'elle en est à 30 à peu près, est intervenue pendant la session ordinaire. Et les affidés de Marine Le Pen d'interroger le Conseil constitutionnel dans leur recours, le gouvernement n'a-t-il pas grillé son unique cartouche ? Alors, sans sa défense, celui-ci fait valoir que rien dans la Constitution n'interdit au Premier ministre d'engager sa responsabilité au cours de deux sessions successives. Quand cela répond à d'évidentes raisons d'opportunité. C'est une analyse que partagent les conseillers juridiques de l'Assemblée nationale et qui les arrange. Décidément, de mauvaise humeur, les députés RN contestent par ailleurs le fait que ce second 49-3 n'ait pas été annoncé par Elisabeth Borne, qui était en voyage en Irlande, mais par le ministre des Relations avec le Parlement, qui s'appelle Franck Riester, si on arrive à suivre. Il aurait fallu un décret, plaident les sourcilleux amis de Marine Le Pen. Voilà qu'elle devient sourcilleuse tout d'un coup. Là encore, le gouvernement considère que rien n'empêche le Premier ministre de confier à un ministre le soin d'informer les députés d'un recours au 49-3 lorsqu'il se trouve empêché d'en faire lui-même l'annonce. Confidence d'un vieux routier des cabinets ministériels. J'imagine que Matignon avait pris auparavant des garanties auprès du Conseil constitutionnel d'ordinaire. Comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais la question, c'est vivons-nous dans des temps ordinaires? Je ne le pense pas.
Ce soir, vous êtes super, c'est le matin sur Radio Escapade, on écoute les Béruriers Noirs. Et c'est Isa, toujours pour Dididi.
Merci Antoine pour ce magnifique clin d'œil. En tout cas, la jeunesse emmerde le Front National. J'espère qu'elle continue à l'emmerder. Bon, je vais parler des CRS et qui sont en grande flemme olympique. C'est là un titre du canard qui m'a bien plu. C'est CRS, Darmanin les veut sur le pied de guerre pour les JO. Et pour ça, il est prêt à casquer. C'est facile pour lui, c'est pas son fric. Hein. J'ai décidé d'accélérer la revalorisation de la prime. La prime qui a un nom bizarre, la prime I-JAT, je sais pas quoi, des CRS de janvier prochain. A communiqué sur X, le premier flic de France, le 4 décembre. Il y a moins d'un an déjà, il avait remplumé l'indemnité journalière d'absence temporaire, c'est-à-dire 45,32 euros minimum par jour de vadrouille dans l'Hexagone, avec des bonus pour les déplacements outre-mer, où là c'était encore plus cher, c'était 50, 85 ou 70 euros par jour, selon la destination. À raison d'une moyenne de 200 jours annuels d'excursion par poulet casqué, ça en fait du blé défiscalisé. La somme représente peu ou prou un tiers du salaire de chaque fonctionnaire. Tout ça en attendant la future prime spéciale JO, évidemment, qui a été promise à l'ensemble du poulailler. Et pas de médaille ? Ça commence à faire pas mal, hein ? JO ou pas, la fameuse CRS 8 créée par Darmanin va rafler la mise. La compagnie chouchoute du ministre est en effet envoyée partout où il y a du grabuge et des caméras. Le premier flic de France est si content de son joujou qu'il a signé le 9 décembre un arrêté et un décret pour en créer 4 autres sur le même modèle guerrier, soit 800 Rambo de plus en treillis noir, avec pour les convoyer une centaine de camions à 50 000 euros pièce quand même, et 8 4x4 équipés pour la guérilla urbaine. Merci qui ? Merci nos fonds de poche. Hein. À croire que le ministre n'a pas lu le dernier rapport moral de sa compagnie fétiche dans ce document confidentiel récupéré par Le Canard, le chef de la 8 n'en finit pas de geindre sur la manière dont son unité est utilisée. Morceau choisi. Nous sommes employés à 90% comme force supplétive de la sécurité publique. Il n'y a rien de coordonné et encore moins de ciblé. Je rappelle que la CRS 8, dans son corpus doctrinal, n'a pas été créée pour effectuer ce type de mission. Oh ben, ça va alors. Et ils s'entendent bien tous les deux. Et le commandant d'implorer que ces hommes soient reconnus comme des urgentistes de l'ordre public. Et bientôt CRS sans frontières. Quant au matos, pourtant tout neuf et hors de prix, le commandant n'en est pas content non plus. Les casques nouvelle génération filent la migraine, l'ergonomie intérieure provoque chez les opérateurs des inflammations et des douleurs au crâne. Pauvre chérie, mon Dieu, c'est difficile. Tout tant que ça n'affecte pas leurs neurones. Mais ça, c'est même pas sûr. Par ailleurs, entre être casqué ou être masqué, il faut choisir. Les masques à gaz doivent être modifiés pour être compatibles avec les casques, parce qu'ils ne le sont pas, imaginez-vous. Les lunettes de protection sont à pleurer. Oh, nous avons constaté qu'elles n'étaient pas étanches aux effets des gaz lacrymogènes. Ah, ça, c'est embêtant pour eux. Les nouvelles tenues, elles sentent le cramé. Elles ne correspondent pas aux normes exigées pour assurer une protection non-feu efficace. Et pourtant, c'est du flambant neuf. Hein. Alors, côté par coteau, les 4x4 sont de piètre qualité et facture, disent ces flics. Arrête ton char, les nouvelles estafettes Fiat Ducato. Elles souffrent de problèmes mécaniques et électriques et surtout ne possèdent pas de GPS. Alors pour s'y retrouver dans les quartiers nord de Marseille ou les cités du 9-3, bah c'est impec. Hein. On est loin des super Rambo vendus par Darmanin. Voilà, monsieur Darmanin, vous avez dépensé une fortune pour des prunes, semble-t-il. Ou pour vous faire bien voir, ça n'a pas marché. C'est vraiment n'importe quoi, ce gouvernement.
Boy, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair, la route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférez les dociles. Je veux toujours moins en faire. C'est clair, c'est clair. Allonge du cash pour se manquer. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport.
Les Silmarils sur les ondes de Radio Escapade, vous êtes toujours en direct et c'est toujours l'émission Dididi avec Isa.
Bon, j'ai fait mes cadeaux de Noël, comme d'habitude, c'est juste en librairie. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de lire tout de suite un bouquin qui m'a intriguée, qui s'appelait « Le Christ à la carabine » de Ryszard Kapuściński. Sur la guerre là-bas, en Palestine. Et ben, je vais vous en livrer quelques pages, c'est pas très long, mais comme ça nous accompagne tous les jours, c'est bien qu'on sache un peu ce qui se passe là-bas. La Palestine est un véritable mouchoir de poche. Ses frontières sont à un jet de pierre l'une de l'autre. C'est ça, la Palestine. On peut la traverser en une journée. De Haïfa au lac Tibériade, il y a 60 kilomètres. Et de Tel Aviv à Jérusalem, il y en a 90. On peut longer toute la côte en une heure et demie. Pour quelle raison le moindre caillou du mont Hermon fait-il l'objet de combats aussi sanglants? Parce que celui qui se tient au sommet de ce massif peut voir la moitié d'Israël et la moitié de la Syrie, la moitié du Liban et même un morceau de la Jordanie. Le Proche-Orient est un vaste espace qui s'étend sur des centaines de kilomètres carrés désertiques et inhabités. Mais c'est l'endroit où se joue le drame le plus sensible et le plus explosif du monde. Il ressemble à une scène bondée. Les gens y sont serrés comme dans un autobus à l'heure de pointe. De plus, il y fait une chaleur torride, ils sont en sueur, ils ont les nerfs à fleur de peau. Tout le monde est comprimé. Tout le monde étouffe. On passe tranquillement un premier arrêt, un deuxième, mais il suffit que quelqu'un marche sur le pied d'un autre pour que l'explosion se produise. Pas question de discuter tranquillement. On est aveuglé par la haine. Le voisin est un ennemi. Si on reçoit l'ordre de lancer une bombe, on la lance. Si on reçoit l'ordre de tirer, on tire. C'est ça la Palestine, dont Israël s'est approprié une moitié et occupe militairement l'autre. Dans l'État d'Israël, aujourd'hui, les Arabes et les Juifs sont condamnés à vivre ensemble. Ils sont condamnés à s'entasser dans un autobus bondé dans lequel ils se côtoient bon gré mal gré quotidiennement. Ils sont condamnés à subir la sueur et la haine des uns des autres. Dès 1930, le gouvernement britannique déclarait que la Palestine était comble et qu'elle ne pouvait plus accueillir de Juifs, car il n'y avait plus de terres libres. Or, à l'époque, il y avait seulement 200 000 Juifs, tandis qu'aujourd'hui, ils sont près de 3 millions. Par ailleurs, 500 000 d'Arabes vivent en Israël même et 1 million sur les territoires occupés. La partie fertile de la Palestine est constituée de deux oasis, la Galilée et la Samarie, ainsi qu'une étroite bande de terres arables le long de la mer. La densité de la population est supérieure à 500 personnes au kilomètre carré. Une telle concentration humaine n'existe nulle part au monde, sauf dans les villes. Pourtant, le gouvernement d'Israël continue d'encourager l'immigration. Qu'ils viennent, on les casera bien quelque part. On arrivera bien à leur trouver une place. Premièrement, plus la masse humaine est importante, plus l'argument international a de poids. Nous ne savons plus où nous fourrer. Dans la mer ? Sur la tête les uns des autres ? Deuxièmement, Israël est un petit pays, mais il a les prétentions d'une grande puissance. Il a besoin d'une grande administration, d'une grande armée, de grands services de renseignement. Il y a des postes vacants partout. D'après les Fedaïn, l'immigration en Palestine s'est faite tant sur le dos des Palestiniens que sur celui des Juifs palestiniens. Ils citent des cas où des commandos sionistes ont assassiné les Juifs palestiniens qui protestaient contre les immigrants européens, car ces derniers les reléguaient à des postes politiques et économiques subalternes. Certains Juifs locaux ont gardé de la Palestine le souvenir d'un paradis où Arabes, chrétiens et Juifs vivaient en harmonie. Personne ne pensait à tirer une balle dans le dos de son voisin. Chacune des trois communautés s'occupait de ses propres temples. Il y avait assez de place pour les trois dieux. Les Fedaïn disent que leurs actions ne sont jamais dirigées contre les anciens villages de Juifs palestiniens. Elles ont pour cible les villages d'où les Palestiniens ont été chassés et où les Israéliens se sont installés pour cultiver les terres arables. 1 million de Palestiniens ont ainsi dû quitter leur patrie. Depuis plus de 25 ans, 1 million d'hommes vagabondent sur les chemins. Depuis plus de 25 ans, ils errent d'un endroit à l'autre. Dans la région d'Amman se trouve un camp où vivent 50 000 Palestiniens. En 1947, ils ont été chassés de Samarie et Gaza. En 1956, de Gaza sur la rive ouest du Jourdain. En 1967, de la rive ouest du Jourdain sur la rive est. En 1969, les Israéliens ont entrepris d'attaquer les camps dans la vallée du Jourdain. Les réfugiés ont alors été obligés de se déplacer dans la région d'Amman. Les Fedaïn se souviennent que chaque guerre a engendré une immense vague d'émigration palestinienne. Les gens fuyaient l'armée israélienne dans les vêtements qu'ils portaient. Et sous un tel climat, les hommes n'ont qu'une chemise et un pantalon, parfois des chaussures. Depuis 25 ans, ces hommes vivent de ce que leur donne l'ONU. 2 poignées de riz, 1 poignée de farine et 1 cuillère de sel par jour. Certains travaillent, mais les pays où se trouvent les camps palestiniens sont pauvres. Le taux de chômage y est élevé, il est difficile d'y trouver un emploi et de plus, les réfugiés palestiniens sont essentiellement des paysans. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est cultiver la terre. Or, il n'y a de terre nulle part. Pour eux. L'un des Fedaïn dit que pour eux, Palestiniens, la terre représente tout. Ils n'ont pas la mentalité de leurs frères bédouins nomades du désert, ni celle de leurs frères des villes cramponnés à leurs boutiques, ni celle des fellahs des oasis qui travaillent la terre de leurs propriétaires. Chaque Palestinien avait son champ, sa maison et son jardin. Il y était né et y travaillait. C'était là qu'il vivait. Chaque Palestinien était un paysan libre. Il était son propre maître. mais aujourd'hui nous n'avons plus rien. Nous avons sans avoir. Car cette maison, ce champ et ce jardin existent et nous devons y retourner. Mon père me dit, Ahmed, il est temps de semer le blé aujourd'hui. C'est un bon jour pour les semailles. Pendant toute la journée, il est assis devant sa baraque dans un camp. Il n'y a pas de blé, il n'y a pas de champ. Le champ se trouve à l'étranger. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Musica.
Vous aurez sûrement reconnu la trompette d'Ibrahim Malouf qui accompagnait M ainsi que Iba Tawaji pour le morceau Map Monde.
Map Monde, comme ça nous va bien en ce moment. Ce que je viens de vous lire, ça m'a fait penser à un poème de Javed Akhtar, qui est un poète indien. On l'appelle quelquefois le Prévert de l'Inde. Il y a un tout petit poème que j'aime beaucoup de lui qui s'appelle « Ma cour, mon arbre ». Ma cour, combien elle était étendue, combien elle était grande, dans laquelle tous mes jeux d'enfant étaient contenus. Et devant la cour se dressait un arbre qui était bien plus haut que moi. Mais j'étais certain que devenu grand, je réussirais à en toucher le faîte. Des années se sont écoulées. De retour à la maison, je vois à quel point cette cour est petite. Mais l'arbre, lui, est encore bien plus grand qu'avant.
I've got dreams, dreams to remember.
I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams.
Rough dreams.
Dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rough dreams.
Dreams, oh, to remember.
I still want you to stay. Said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen to me, mama.
Otis Redding, I've Got Dreams to Remember. Pardon, vous êtes toujours à l'écoute de Didi sur Radio Escapade avec Isa.
Les hommes qui vivent depuis longtemps en Palestine en connaissent l'histoire. La première phase de cette guerre a été anarchique et chaotique. Une foule attaquait une autre foule, chacune de ses propres mains, comme elle le pouvait. Et ça a duré des années. Les premiers à s'organiser ont été les sionistes. Dès les années 1920, vous imaginez ? C'était alors une organisation militaire clandestine. Et puis, il y a eu, lors de la guerre israélo-arabe de 1948 à 1949, Yigal Alon qui dirigeait le Palmach. Il a été Premier ministre par intérim à partir de 1967 et il est actuellement ministre des Affaires étrangères dans les années 1930, considérant le Palmach trop tolérant à l'égard des Arabes, les extrémistes ont fait sécession et ont créé une organisation encore plus terroriste, l'Irgun. Tout ça, c'est très compliqué, mais c'est leur histoire. Les fédayines disent que le Palmach, l'Irgun et le Stern se sont consacrés à la liquidation de la population palestinienne. C'est ça, leur but. La Palestine étant surpeuplée, il fallait faire de la place pour les immigrants, il fallait chasser les Palestiniens. Et pour chasser les Palestiniens, il fallait les effrayer. Ça a commencé il y a longtemps. En février 48, un bataillon de Palmach a tué plus de 60 femmes et enfants. Vous voyez que la guerre n'est pas nouvelle. Et après la création de l'État d'Israël, de nombreux paysans palestiniens ont été coupés de leurs terres. Leur village se trouvait du côté jordanien et leurs champs du côté israélien. Les villages ont été condamnés à la famine car les paysans ne pouvaient plus récolter les produits de leurs terres. Les Israéliens leur interdisaient de franchir la frontière. Et ça s'arrange pas, ça continue. Alors, comme des contrebandiers, ils allaient faucher une botte de blé, un sac de maïs. De nombreux Palestiniens sont morts de cette manière, sur leurs propres champs. Puis les Israéliens ont brûlé les villages se trouvant près de la frontière, obligeant les paysans à fuir au-delà du Jourdain, car il n'y avait plus rien, ni champs, ni maisons. Voilà, les actions sont pour la plupart un simple réflexe de découragement et de désespoir profond. Les pertes qu'ils subissent sont supérieures à celles qu'ils infligent. Un jour, les Palestiniens ont organisé une action qui a provoqué la mort d'une Israélienne et de son enfant. En réponse, le général Sharon a envoyé un raid de représailles dans les villages. Résultat, 69 Arabes ont été brûlés vifs la nuit dans leur maison, dont 16 femmes et 28 enfants. Et ça continue. Parce que ce que je viens de vous lire, c'est un bouquin de Rapuchinsky. Et il a été écrit, je vais vous dire exactement, il a été écrit, c'est toujours écrit à la fin d'un livre, en 1976. Vous voyez ? Ça dure cette guerre. C'est terrible. Musica.
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser.
Courage des oiseaux.
Bon, les amis, je voudrais vous remercier pour votre écoute, pour votre présence, pour vos retours. J'aime la radio, j'ai aimé très fort la radio, bien plus que la télévision, l'ordinateur, les tablettes. Et j'ai aimé être une voix pour vous, mes amis inconnus. Vous devriez essayer, vous aussi, parce que vraiment, c'est un bonheur. Et puis la radio, c'est une association, c'est-à-dire une structure ouverte. Elle a été créée au siècle dernier, en 98, il était temps, grâce à une bande d'amis de Lasalle qui ont décidé que ce serait une bonne idée d'avoir une radio libre dans nos Cévennes. Ah, je les en remercie encore. C'est formidable d'avoir eu cette idée, de l'avoir montée, parce que c'est difficile de monter une radio et de faire toutes ces paperasses, autorisations, antennes, recherches, etc. Et oui. Et puis, ils nous ont fait ce cadeau et on a pu, on a pu démarrer. C'était assez extraordinaire parce que tout d'un coup, l'église protestante de Saint-Hippo a été choisie parce qu'elle avait offert ses locaux au deuxième étage, sous la place de la Canourgue. C'était une formidable générosité et ça a permis de démarrer. Juliette a été embauchée. Juliette, c'est mon amie, ma nièce. Elle sortait d'un stage à France Inter, ça tombait bien. Et elle m'a appelée. Et on a démarré donc toutes les deux, l'une à la technique, l'autre au micro ou inversement. Une heure par jour pour commencer. Bon, ça a duré presque 2 ans et Juliette est partie, appelée ailleurs. Alors j'ai pris sa place. Enfin, on ne prend pas la place de quelqu'un. J'ai essayé de remplir sa place. Et j'ai appelé Francky Texier comme technicien. C'était génial de travailler avec un musicien, pour plein de raisons. On a travaillé comme des fous de 9h du matin à quelquefois 10h du soir. Je repense à une émission de José Gomez qui nous entraînait toujours dans la nuit. Bon, j'ai acheté des centaines de CD, jamais remboursés, je le précise, parce qu'on m'a souvent reproché de piquer un ou deux disques. Mais enfin, ça a toujours été un plaisir de venir ici. Et puis, au bout de 5 ans, ben, on a été virés. Enfin, moi, j'ai été virée. C'était un peu dur, parce que juste à ce moment-là, j'avais un cancer en même temps. C'était bizarre. Mais ça fait rien. Je me suis bien rattrapée. Je suis partie au Népal et au Tibet. Ça m'a fait du bien. Et je suis revenue forte. Et Francky, lui, il est parti encore plus loin. Je crois jusqu'au Japon, avec sa guitare, alors qu'il ne parlait même pas anglais. Voilà. C'est une belle histoire pour nous. Après, je n'ai fait que vous écouter. Et quand même, je suis revenue parce que ça me démangeait un peu. Alors, merci à toute l'équipe d'aujourd'hui de m'avoir accueillie il y a quelques années. 2 ou 3, je ne sais plus. Et j'étais contente de faire ce petit bout de chemin à côté de vous et de voir que la radio grandissait, embellissait, s'élargissait, s'étalait dans la région. Profitons-en parce que c'est vraiment un lieu et un moyen de se parler, d'apprendre, de se construire, qui est génial. Alors merci à tous d'avoir été là. J'avais écrit plein de trucs, mais je ne sais même plus où j'en suis. De toute façon, c'est l'heure. Si tu veux.
On s'écoute un petit morceau de musique que m'a évoqué tes paroles, et puis on continue après.
Ok.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Avec des gens qui sont intelligents, et moi j'ai pas d'avis parce que je trouve que ça dépend. Je suis passé dans le futur, j'avais trop envie d'y repasser. Je me suis fait plein de contacts, là-bas les gens ont plein de projets, et moi je n'existais plus. mais c'est pas important. J'ai entendu ta voix dans la radio.
Radio, c'est la chanson que nous chante Jacques pour nous accompagner dans cette dernière dizaine de minutes avec Isa pour Dididi.
Oh, même pas 10 minutes, juste un petit au revoir. Parce que cette période est un peu difficile et parce que c'est une fête obligatoire, semble-t-il, même si vous n'êtes pas chrétien. En France, on fait comme si on l'était tous, même si la fête est vraiment devenue plus familiale que religieuse. Le récit religieux, de toute façon, c'est juste une histoire. Chacun le prend comme il veut, comme tout ce qui nous arrive dans la vie. C'est vous qui choisissez. C'est pas toujours facile, mais ça s'apprend. C'est vous qui décidez pour vous. Je vais partir et je sais que vous allez me manquer. Je ne vous vois pas ni ne vous entends, sauf quelquefois quand un homme ou une femme pose sa main sur mon bras dans la rue pour me dire un mot gentil ou juste bonjour. Merci de tout cela, de ces échanges, de sourires, de complicité muette. Je le prends comme douceur et amitié. Les relations entre nous tous sont tellement importantes. D'autant plus que l'arrivée des portables nous a un peu isolés. Alors un regard, un sourire sont devenus rares, donc chers. Pas de fric, évidemment, mais d'amitié et d'attention à l'autre. Mes amis, connus et invisibles, passez de bonnes fêtes. On se reverra sans doute quelque part. Je vous embrasse.
Adios. Adios. Adios to your afternoon. 'Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon. Into a certain room. Adios. Adios. I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. 'Cause that vision is mine. That vision is mine. Mm-hmm. Adios.
Yes.
Adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat. I have any regret. If it wasn't for my mistakes I made yesterday, where would I be by now? That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. 'Cause the vision is mine, the vision is mine.
people have been coming up to me lately and talking about how, you know, Benjamin, why is it so that, you know, you're young, but yet your world seemed very dark and you seem to be almost possessed? I think that's quite funny. Because when I'm on my journey, you know, I'm, you know, figuring things out, I do come across, surprisingly, angels. They come to me and they sing to me so beautifully. And if I can recall very clearly their melodies, it goes something like this.
The tree cease breathing, lest the bee cease breeding, and all the salt in the Dead Sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing. Decision is mine, the lesson be mine, cause the fish.